Une année marquée par la professionnalisation des acteurs malveillants. Voilà le constat réalisé pour l'année 2021, le 9 mars dernier, par l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Nous avons convié le commandant Leroy, directeur adjoint du service de police judiciaire de Caen, à évoquer les fraudes numériques de nouvelle génération, les mesures de prévention et de vigilance à mettre en œuvre. Nous lui demanderons d'aborder également en quelques mots les risques accrus de cyberattaques en lien avec la crise internationale. Commandant Leroy, nous vous remercions tout d'abord d'avoir accepté de répondre à ces questions. Quelques questions sur ce sujet crucial que représente la menace informatique. Tout d'abord, pouvez-vous rappeler à nos auditeurs ce qu'on entend de façon générale par fraude numérique ?
Tout d'abord, merci de me recevoir au sein de la compagnie régionale des commissaires aux comptes. Alors, le sujet est extrêmement vaste et mériterait peut-être des heures d'explication. Mais pour simplifier le propos, moi je ferai un distinguo entre les tentatives d'appropriation pécuniaire, d'une part, et d'autre part, les cyberattaques, dont le but est en général plus la déstabilisation ou le blocage d'entités commerciales ou publiques, et qui ressortent plus de la manipulation politique, voire terroriste. Et donc, c'est plus la sphère des services de renseignement. Alors, d'une manière générale, les fraudes numériques sont toutes les actions d'individus ou de groupes d'individus qui tentent de commettre des escroqueries, c'est-à-dire des appropriations financières. Et donc, au travers de l'outil informatique, elles peuvent perpétrer ce genre d'escroquerie avec l'aide de la sphère du web, dans sa composante classique, ouverte, à travers notamment Google, mais également via sa face plus sombre, le Darknet.
Quelles sont les principales cibles des fraudeurs ? Quelles sont leurs motivations, leurs objectifs ?
Alors, c'est assez simple, je dirais même dramatiquement simple. Toute entité commerciale, mais même pas forcément, en tout cas toute entité ou citoyen qui dispose d'un compte bancaire est une cible potentielle. Nous avons les entreprises, forcément, les associations, les collectivités territoriales, l'État même, et puis bien évidemment les particuliers. Alors, le choix est très très vaste pour les fraudeurs, hein, vous l'imaginez bien. Vous voyez bien, ils vont juste, en fait, s'adapter à leur cible. Ils vont adapter leur demande au niveau financier attendu de la cible. Forcément, on ne va pas demander un particulier 300 000 euros, un particulier lambda, je dirais, 300 000 euros de virement. Et on va simplement s'adapter en fonction du chiffre d'affaires, par exemple, de l'entreprise. Et puis, même pour les particuliers, on essaiera de cibler des sommes assez raisonnables pour un particulier lambda. Et la motivation est très basique, hein, on est sur de l'appropriation financière, que ce soit une forte somme en une seule fois, par exemple contre une entreprise ou une collectivité territoriale, ou de nombreuses petites sommes quand on cible les individus.
La fraude numérique, les cyberattaques n'arrivent pas qu'aux autres. Avez-vous eu connaissance de tels faits en Normandie et quelles sont les principales failles des organisations qui ont permis à ces fraudes d'aboutir ?
Alors non, effectivement, nous ne sommes pas dans le fantasme ou la paranoïa. Les fraudes que nous avons pu déceler, qui nous sont rapportées par les victimes, concernent tous les types d'entreprises, tous les secteurs d'activité, mais également, je vous le disais, les collectivités publiques, pardon, et dans tous les secteurs géographiques. Alors la Normandie n'est hélas pas épargnée par ce genre d'attaque. La Normandie est une terre active au niveau économique, ouverte sur le monde, ouverte, les entreprises sont de plus en plus interconnectées, et donc la Normandie est une cible comme les autres pour les fraudeurs. Les failles, elles sont, pour schématiser, de deux types, et c'est surtout en fonction des attaques. Si nous sommes face à une cyberattaque, donc une attaque purement informatique, de type par exemple ransomware. Le ransomware, je peux expliquer peut-être en deux mots ce que c'est, mais c'est quelque chose qu'on retrouve assez régulièrement et qui est très très inquiétant. C'est une attaque en cyberblocage, hein, c'est-à-dire que le cyberhacker va bloquer votre système informatique, le système informatique de l'entreprise, et un matin quand les gens se connectent, le système est bloqué, verrouillé, crypté, et on vous propose de décrypter et de débloquer votre système en échange d'une rançon, d'accord, ce fameux rançongiciel. Et donc alors là, c'est clairement, vous n'avez pas su procéder votre système, clairement. Donc je reviendrai un petit peu après sur éventuellement des conseils qu'on peut donner dans ce genre d'attaque. Voilà, donc ça c'est un premier type d'attaque, des attaques purement informatiques, qui ont quand même une volonté d'appropriation, puisqu'on demande en échange une, une rançon. Par contre, si nous avons affaire à une escroquerie, je dirais, plus classique, même si elle peut utiliser le vecteur de l'outil logiciel, une escroquerie, on va vous demander un paiement par virement, notamment un virement international, un faux virement international. La faille est alors plus humaine. Nous avons, les fraudeurs ont pu cibler un individu, enfin, un collaborateur qui serait susceptible d'être un personnage clé, peut-être plus imprudent ou parfois naïf. Et les fraudeurs vont plus agir sur la psychologie de la cible, bien que l'approche pourra avoir été faite grâce à l'outil informatique, grâce aux réseaux sociaux, etc. Mais là, on est plus sur une approche plus psychologique de convaincre un individu de transférer de l'argent. Voilà à peu près les deux points de vigilance sur lesquels il faut apporter un focus.
Vous avez eu connaissance de faits de la sorte en Normandie?
Alors, nous avons un panel assez large de ce type d'attaque. Nous avons régulièrement des remontées, des plaintes pour des attaques en rançon logiciel. Ça arrive très très régulièrement. Donc là, c'est un petit peu la cata. Si vous me pouvez parler, comment dire, me prêter un propos un peu plus trivial, parce que là, l'ouverture du système informatique, l'entreprise est bloquée. Le premier réflexe du chef d'entreprise, ce serait peut-être de vouloir payer, puisqu'en général, les sommes qui sont demandées sont relativement raisonnables. On est parfois sur quelques centaines, quelques milliers d'euros. On pourrait être tenté de payer, puisque face au risque de perdre l'intégralité des données d'une entreprise si elle ne s'est pas protégée auparavant, on peut être tenté de payer. Ce que nous conseillons par expérience, c'est que le paiement ne garantit surtout pas, ne garantit jamais l'obtention de la clé de décryptage. La plupart du temps, les voyous, quand ils se font payer une première fois, ben, ils se disent qu'ils sont prêts à payer, donc on va redemander un paiement. Et donc voilà, en tout cas, par expérience et sur le nombre d'attaques qu'on a pu enregistrer en Normandie et sur le territoire national, très peu de clients attaqués, très peu d'entreprises attaquées qui ont payé, ont reçu la clé de décryptage. Donc ça, c'est quelque chose que nous voyons très très régulièrement. Alors, grosse difficulté pour intervenir puisque les attaques ne viennent pas forcément de France, elles peuvent venir de partout dans le monde. Et c'est très difficile de remonter la source du signal d'informatique et de l'attaque, puisque les fraudeurs passent par des systèmes de rebond sur des plateformes étrangères sur lesquelles il est impossible d'obtenir des renseignements. Là, en l'occurrence, nous avons affaire à des difficultés en termes de remontée d'enquête. Et puis, l'ensemble des fraudes que l'on qualifie de fraude au faux virement international, alors ça, c'est quelque chose qu'on a depuis une dizaine d'années. La tendance était très, très haussière jusqu'à encore il y a 2 ans. La crise de Covid a un peu perturbé tout ça, mais ça reprend. Donc, nous avons les deux grands schémas classiques que l'on a pu déjà évoquer par le passé. La très très célèbre maintenant fraude au président, qui paraît un petit peu, enfin qui paraît tellement connue qu'on nous sommes encore étonnés qu'elle fonctionne, mais elle fonctionne encore actuellement. Donc, je rappelle la fraude au président grâce à des manœuvres d'espionnage hein, de l'entreprise. Les fraudeurs ciblent un personnage clé de l'entreprise qui peut être le directeur financier, qui peut être un comptable, parfois même tout simplement la personne qui est chargée de l'accueil téléphonique, et qui arrive à avoir une connaissance fine du fonctionnement de l'entreprise, qui a les codes pour ceci, qui a les clés pour cela, et profite d'un moment où, par exemple, le chef d'entreprise est absent, en séminaire ou en vacances, pour demander, sous un prétexte fallacieux, mais en tout cas un scénario bien, bien organisé, et surtout très crédible, demander un virement international. Alors, je peux peut-être citer un exemple assez concret, hein, qui est arrivé dans l'Orne. C'est intéressant parce que la société n'était pas du tout, ne travaillait pas du tout à l'international. C'était une société qui fabriquait des engins agricoles. Mais il se trouve que, et vous verrez que c'est assez intéressant, puisque là, nous sommes au fin fond de l'or, on va dire, dans une entreprise qui est, je dis, très très locale et ne travaillant pas à l'export, et qui malgré tout a fait l'objet d'escroquerie. Nous avons donc une secrétaire comptable qui est là en l'absence de son patron, et le patron, le chef d'entreprise, est en vacances en Pologne. Le fraudeur contacte la secrétaire comptable et se fait passer pour le chef d'entreprise. Alors vous allez me dire comment on peut se faire passer pour le chef d'entreprise? Déjà, en fait, les fraudeurs utilisent des outils qu'on peut trouver facilement sur le darknet, des outils qui permettent, un, de modifier, transformer la voix, deuxièmement, de masquer et de faire apparaître des numéros de téléphone qui peuvent être connus de la personne qui reçoit l'appel. Et puis, le premier contact est très important. Le premier contact pour crédibiliser l'attaque est très important. En l'occurrence, le chef d'entreprise qui était en Pologne avait déjà mentionné sur son compte Facebook qu'il était en vacances à Cracovie. Donc déjà, les fraudeurs avaient un petit temps d'avance, je dirais. Et donc quand ils ont contacté la secrétaire comptable, bonjour madame, monsieur machin, je suis en vacances en Pologne, forcément. C'était son patron, donc elle savait. J'ai actuellement contacté, j'ai rencontré des gens qui sont des potentiels, comment dire, marchés pour nous. Il serait important de pouvoir disposer de cash tout de suite pour bloquer le marché. Est-ce que vous pouvez virer 400 000 euros? On était un vendredi après-midi. Et donc, au cours de la conversation, le fraudeur est rentré en relation un peu plus intime avec la secrétaire comptable. Il lui a parlé de sa famille. Forcément, elle avait, le week-end précédent, organisé la communion de son fils. Et donc, ils ont échangé sur la communion du petit dernier que la secrétaire comptable avait, comment dire, publié sur son compte Facebook. Et donc, pour elle, pendant une heure qu'elle a eu son patron, enfin, le fraudeur, entre guillemets, son patron au téléphone, elle était persuadée d'avoir affaire à son réel employeur. Et elle n'avait aucune inquiétude sur ce qui se passait. Au bout de quelques temps d'entretien, le patron lui a effectivement demandé, en la mettant sous pression, ses virements internationaux, en lui expliquant, pardon, qu'il était important de clore le marché rapidement, qu'il fallait des cash tout de suite. L'employé a appelé la banque, a prévu le virement. Le banquier, prudent, lui dit, est-ce que vous êtes certaine que c'est bien votre patron au téléphone? Ah oui, j'en suis certain, il n'y a aucun souci. Mais vous savez, vous n'avez pas du tout de travail, vous ne travaillez pas du tout à l'international. Mais non, justement, c'est une manière de développer l'international. Donc elle a insisté. Le banquier, malgré ses conseils de prudence, bah, a été obligé de valider les virements. Et en 2 ou 3 heures, un vendredi après-midi, c'est près de 400 000 euros qui sont partis. Alors ça, c'est un type classique d'attaque de fraude au président, mais que l'on retrouve sous divers scénarios. Les scénarios changent en fonction de l'entreprise. Les fraudeurs étant capables d'avoir une connaissance fine de l'entreprise, ils arrivent à cibler en fonction du chiffre d'affaires et en fonction des marchés et du type de production que l'entreprise génère. Deuxième type de fraude aux faux virements internationaux, ce que l'on retrouve dans maintenant les 3/4 des cas, c'est ce qu'on appelle le changement de nom. Là, le fraudeur vous demande pour ses prochains paiements de facture de ne plus payer sur le RIB que vous avez l'habitude d'utiliser, mais sur un nouveau. Alors le scénario là également change. On peut vous dire par exemple, comme c'est arrivé sur une collectivité territoriale locale, on peut vous expliquer que la société fait appel à une société d'affacturage qui se trouve à l'étranger. Et donc, bah, si vous ne vous faites pas attention et que vous ne vérifiez pas en amont la véracité du contact, et bah, les prochains virements que vous allez effectuer seront non pas sur le compte de votre fournisseur, mais bien sur le compte des fraudeurs. Et là, en l'occurrence, on était en période de vacances d'été et c'était pas forcément la personne qui était habituée à valider ce genre de paiement. En quelques minutes, elle a validé pour plus de 400 000 euros également de paiement vers une société à l'étranger. Donc là, ça pose encore une question. Du jour au lendemain, on vous demande de changer vos habitudes de paiement sur des sommes relativement importante. L'employé, en l'occurrence un agent public, ne s'est pas posé une seule fois la question de savoir pourquoi tout d'un coup on devait payer sur un compte à l'étranger. Mais tout simplement parce que le fraudeur avait bien amené le sujet. Il avait précédemment récupéré auprès du fournisseur toutes les factures de ce client-là. Donc, quand les factures ont été sollicitées auprès du client, ben, il avait les références de factures, les sommes dues au centime près. Donc, quand le bordereau est arrivé par mail, avec une adresse mail qui ressemblait fortement à l'adresse mail habituelle de ce fournisseur, et ben le client n'a eu aucun doute et a pu régler les factures avec la bonne référence et le bon montant au centime près. Voilà. Donc deux types de fraudes que l'on retrouve assez régulièrement. Là, j'ai pris un exemple volontairement dans une petite PME agricole et sur une collectivité territoriale. Donc pour vous montrer que tous les scénarios sont possibles et que toutes les cibles sont envisageables.
Prévention, vigilance, une leitmotiv importante. Quel conseil pourriez-vous donner à tout un chacun particulier, entreprise, collectivité, pour éviter d'être la cible de fraudeurs numériques?
Alors, ces conseils sont naturellement des typologies d'attaques que je viens d'évoquer, que ce soit la cyberattaque pure, mais également les attaques plus ciblées sur les personnes. Mais pour moi, le leitmotiv et le mot que je martèle à chacune des interventions que je peux faire, c'est paranoïa. Alors, vous allez me dire, c'est peut-être exagéré, mais non. Je le répète, soyez parano parce que cela va vous arriver. une certitude, cela peut être, cela est déjà peut-être arrivé. Et donc, si on se met dans cet état d'esprit, je dirais, paranoïa, d'hypervigilance, on peut donc anticiper et donc éviter, ou en tout cas contrer les attaques. On n'évite pas les attaques, mais en tout cas, on peut les stopper rapidement et les contrer. Alors, pour les cyberattaques, je dirais, c'est assez simple. Je vais enfoncer des portes ouvertes, mais je me rends compte que c'est souvent nécessaire de marteler ce genre de propos. Il faut tout simplement que l'entreprise, que l'entité commerciale soit à jour de ses protections informatiques. C'est basique, mais c'est la première chose. Donc les antivirus à jour, les firewalls à jour. Si c'est possible, on utilise un VPN, hein, un réseau privé. C'est assez simple. Maintenant, il y a des produits qui sont relativement peu coûteux. Et qui sont assez faciles d'utilisation. Et surtout, sauvegarder les données de l'entreprise en externe. Si on les sauvegarde sur un site local de l'entreprise, même sur une partition d'un réseau informatique, le réseau peut tout simplement être également infecté par des logiciels malveillants. Donc voilà, une protection, un bouclier extérieur de l'entreprise. Et une sauvegarde des données en externe. Ça, c'est la base. Alors, certes, cela peut avoir un coût en fonction de la taille de l'entreprise, mais imaginez votre entreprise bloquée un beau matin, et ce pendant plusieurs jours, contre une demande de rançon. Et vous voyez la catastrophe que ça peut engendrer. Vous payez bien des assurances, donc je dirais, payez-vous une protection informatique digne de ce nom. Deuxième aspect pour les escroqueries dites aux faux ordres de virement internationaux. Là, comme on est sur de la psychologie, manipulation mentale, excusez-moi. L'important est de sensibiliser les collaborateurs. Ça, c'est la clé. Les collaborateurs qui sont susceptibles d'être ciblés par les fraudeurs. Alors, pas forcément la personne qui va faire le virement, pas uniquement la personne qui va faire le virement. Ça peut être aussi la personne qui est à l'accueil téléphonique, à l'accueil de l'entreprise, qui peut, par maladresse, communiquer des informations qui vont permettre aux fraudeurs d'avoir une connaissance un peu plus fine de l'entreprise. Donc voilà, il faut une communication interne. Alors je dirais comptable, directeur financier, toutes ces personnes clés. Mais d'une manière générale, on peut faire une communication assez large dans l'entreprise pour sensibiliser au risque d'attaque. Donc ça c'est une première chose. Et puis sur le mode de paiement, le mode d'acceptation et de validation des virements, on peut très bien organiser une ségrégation des rôles. Quand on est à deux à réfléchir sur une problématique, on est en général deux fois plus intelligent. Et donc, celui qui prépare le virement n'est pas celui qui le valide. Comme ça, déjà, on a une sorte de garde-fou, je dirais, entre guillemets, qui permet d'éviter les fraudes. Souvent, les tentatives sont avortées justement parce que la personne a parlé à son collègue de bureau, son voisin de bureau. Tiens, au fait, on a un virement qui est en demande, qui est en attente. Qu'est-ce que tu en penses? C'est bizarre. Et là, c'est souvent ça, c'est souvent à ce moment-là qu'on révèle la fraude. Les banquiers ont, comment dire, un rôle très très important. On a souvent vu des fraudes évitées grâce à l'intervention et à la sagacité des responsables bancaires. Qui sont habitués à avoir ce genre de demandes et sont en général plus vigilants. Et surtout, en cas d'attaque déjouée, on a fait beaucoup de communication, notamment grâce à vous, à la CRCC. On a de plus en plus de personnes qui sont au courant de cette problématique et de ce type d'attaque. Et donc, quand on arrive en interne à bloquer et à stopper une tentative d'escroquerie, il est important de valoriser l'action du collaborateur auprès de ses collègues. Il dit, voilà, c'est arrivé, notre collègue a eu le bon réflexe et a pu ainsi sauver, comment dire, l'entreprise d'un péril qui peut être important. Les sommes demandées sont parfois très importantes et peuvent mettre en péril une PME. Voilà à peu près ce qu'on peut évoquer comme type de réflexe que l'entreprise peut avoir.
Merci. La crise internationale éclaire encore davantage, s'il en était besoin, les risques cyber. Les attaquants sont très puissants et performants, comme le relève l'ANSSI. Y a-t-il des spécificités en lien avec cette crise?
Alors là, pour être très honnête, je sors un petit peu de ma sphère de compétences puisque cela concerne davantage les services de renseignement que sont la DGSI, hein, la Direction générale de la sécurité intérieure, et son pendant militaire, la Direction générale de la sécurité extérieure. J'ai vu comme vous les alertes de l'ANSSI. Dans ce type de problématique internationale, et on le repère à chaque fois, nous sommes effectivement confrontés à une augmentation quasiment exponentielle des cyberattaques visant surtout à une déstabilisation de la sphère économique occidentale. Alors, nous savons que les hackers de grandes puissances étrangères, parfois hostiles, sont extrêmement nombreux. Ils sont très en avance par rapport aux pays occidentaux et de la sphère Union européenne. Ils sont très actifs, très agressifs, surtout dans le contexte de cette crise internationale. Ils sont dans une volonté de déstabilisation de la sphère économique. Et on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus d'attaques. Alors, elles ne viennent pas forcément des pays que l'on imagine belligérants actuellement dans le conflit à l'est de l'Europe, mais ça passe par des pays complaisants, des pays amis, et puis sur des plateformes rebond. Donc il est toujours difficile de cibler exactement l'origine des attaques, mais effectivement, l'ANSSI le révèle, on a une explosion des attaques sur les entreprises françaises actuellement.
Pour finir, quel message souhaiteriez-vous passer pour conclure cette entrevue?
Écoutez, je vais marteler ce que je disais un petit peu plus tôt. Vigilance, anticipation, paranoïa, je disais. Les fraudeurs vont souvent au plus facile. C'est comme les cambrioleurs. Ils vont plutôt cibler une maison qui ne sera pas protégée par un système d'alarme. Et donc les fraudeurs, ben, ils vont aller au plus simple souvent. Ils vont viser l'entreprise qui ne sera pas moins bien protégée. Donc paranoïa, vigilance, anticipation sont les mots-clés pour garantir une sécurité face à ce type d'attaque.
Merci, commandant Leroy, pour cette sensibilisation à ces risques de fraude numérique qui peuvent provoquer des dégâts économiques et personnels très lourds. La vigilance aux risques numériques doit être au cœur des préoccupations de chaque citoyen et de chaque entité.